Bien chers frères et sœurs, dernièrement en communauté, on évoquait nos souvenirs de l'école primaire et notamment comment il nous fallait apprendre à écrire. Alors les plus anciens évoquaient la plume et la plume sergent-major, il ne fallait pas faire de pâté avec, c'était très compliqué. Et puis est venu le stylo bic, où c'était nettement plus facile. Et puis en même temps, eh bien, le stylo à plume avec au miracle l'effaceur. Voilà, donc avec la plume, on faisait un pâté, il fallait recommencer toute la page. Avec le nouveau stylo plume, c'est quand même beaucoup plus simple. Et les textes d'aujourd'hui, si je puis dire, ont un petit rapport avec tout cela parce qu'ils vont nous parler d'un moment où le temps va finir et où il n'y aura plus de brouillon. Notre vie va être écrite et nous n'allons pas pouvoir la réécrire. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce jour du Seigneur dont parlent les trois lectures, c'est cela, un moment où le temps s'arrête, où on ne peut plus rien changer à notre existence, à notre poids de bonnes actions ou de mauvaises actions. L'histoire n'est pas un perpétuel recommencement. Voilà, la vie, ce n'est pas un parc d'attractions où l'on rentre à 10h le matin et on sort à 23h le soir en s'étant bien amusé, mais sans qu'il y ait beaucoup de conséquences. Chacun des actes, chacune des paroles compte et engage. Chacun des actes, chacune des paroles écrit notre éternité. Cela, c'est un peu impressionnant, mais c'est très beau en même temps. Cela dit, notre responsabilité. Ce que je suis sera découvert, sera jugé, sera pesé. Et c'est une exigence de mon cœur. Pour ceux qui connaissent un peu la grande littérature russe, vous connaissez peut-être ce roman qui a été mis au cinéma, « Crime et châtiment ». Eh bien, le héros veut faire le bien au monde entier, mais il a besoin d'argent pour ça. Alors ben, il n'hésite pas à tuer sa logeuse et à lui piquer ses économies. Et le crime est si bien fait que personne ne sait que c'est lui. Mais quel est finalement son tourment intérieur le plus profond ? C'est que justice lui soit faite et il se rend aux autorités. Et il subit le châtiment qui est le sien. Nous avons besoin de cette justice parce que nous avons soif de vérité. Et dernièrement, je pense que cette thématique, si vous voulez, a été particulièrement remise au centre de notre intérêt avec un film qui est sorti il y a peu de temps qui s'appelle Thanatos, dont vous avez peut-être entendu parler et qui parle des expériences de mort imminente. Sans évidemment préjuger si c'est une expérience surnaturelle ou pas, mais le fait est que les personnes font une expérience d'être en vérité avec elles-mêmes et en reviennent profondément transformées. J'écoutais le témoignage d'un homme, Jules, qui est docker à Rouen, d'une famille extrêmement pauvre. Il a 17 ans. À 13 ans, il commence à travailler dans les docks de Rouen. À 17 ans, il connaît le monde de la prostitution, du milieu, de la drogue, de l'alcool. Et puis, il va s'engager quelques années après dans l'armée, où il va nourrir une haine très profonde contre les mauvais traitements qu'il a subis. Il revient, et là, c'est un homme méchant. Il va essayer de changer de vie. Et à 27 ans, il se marie. Mais il fera vivre un enfer à sa femme parce que c'est toujours le même. Là-bas, il fait coucher ses enfants dehors. Mais lui n'est très profondément blessé par cette vie et il veut se suicider. Il avale des cachets. Sa femme a la bonté d'appeler le SAMU quand même. 36 heures de coma. Et puis cette expérience d'un lieu terrible où des faces haineuses se tournent contre lui. Et il en revient profondément bouleversé. Sur sa table de nuit à l'hôpital, une Bible qu'il lit. Et cela transforme son cœur en profondeur. Il reviendra, il se convertit au Christ. Et c'est un époux qui rend sa famille heureuse aujourd'hui. Il découvre, comme il le dit lui-même, qu'il y a un Dieu pour les crapules. Voilà, et bien, c'est cette rencontre avec sa propre vérité qui lui a permis ce changement. Cela est important, nous aussi, que nous ayons ces lieux de vérité avec nous-mêmes. Autrement dit, comment anticiper ce jour du Seigneur, ce jour où nous paraîtrons devant Dieu ? Il ne faut pas être surpris. Et c'est la grande tradition de l'Église de nous permettre, parfois avec excès, c'est vrai, mais de nous permettre d'anticiper ce jour. Notre fondateur, le Père Lamy, aimait parler de la pensée de l'heure. Penser à la mort du Seigneur à 15 heures sur la croix, mais penser aussi à sa propre mort. Si aujourd'hui je dois mourir, qu'est-ce que je dois mettre en ordre ? Nous pouvons nous le dire maintenant. Quel pardon n'a pas été donné ? Quel vice je tolère encore dans ma vie ? Quel attachement désordonné ? Quelle agressivité à laquelle je consens trop facilement ? Et ça nous fait du bien. Un autre exemple, c'est Saint Ignace de Loyola. Eh bien, n'hésite pas à faire méditer les retraitants durant les exercices spirituels sur le premier péché des anges et sur l'enfer. Non pas pour se dire « il y a plein de gens qui sont dedans et moi j'y suis pas », pour se dire « l'enfer, c'est une possibilité pour moi ». Si nous excluons cette hypothèse, il se peut que notre conversion soit tiède. Simplement, nous excluons la conséquence de nos actes. Si aujourd'hui, je choisis un chemin qui est d'exclure Dieu de ma vie, Dieu respectera mon choix pour l'éternité. Et c'est une véritable stimulation très énergique. Et puis, nos frères orthodoxes aiment dire que la prière aussi, c'est l'anticipation du jugement. Nous nous confrontons à la parole de Dieu et cette parole nous lit, cette parole nous déchiffre, comme dit l'Épître aux Hébreux, et fait ressortir nos motivations les plus intimes. Voilà donc ce jour du Seigneur que nous avons à anticiper. Un deuxième point, ce jour du Seigneur, c'est aussi ce qui fait le tri dans nos vies. Alors, on a entendu cette expression il n'y a pas très longtemps, « les linceuls n'ont pas de poche ». Alors on peut dire, ça c'est un titre de roman policier à la San Antonio, « les linceuls n'ont pas de poche », effectivement, on n'emporte pas ses richesses au paradis. Mais non, c'est simplement le pape François qui nous rappelle une vérité morale et une vérité spirituelle. Et oui, nous n'emporterons rien de nos richesses que nous avons ici-bas. Et c'est très important parce que dans l'Évangile, le Seigneur nous dit à quoi tu t'attaches. Tu t'attaches à la beauté de ces pierres du temple. C'est vrai, c'est magnifique. Autrement dit, Jésus nous dit, même si tu t'attaches à des choses belles, est bonne, est-ce que c'est vraiment Dieu? Il y a des textes magnifiques dans la Bible qui montrent que justement les plus belles splendeurs de la terre vont disparaître. Je pense à la ruine de Tyr dans le prophète Ézéchiel, ou dans l'Apocalypse, où là on a ces versets au verset 18, au chapitre 18, pardon, « On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi artiste ni artisan. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. » Toutes ces choses magnifiques, elles vont disparaître. Le Seigneur nous dit, ne sois pas un esthète au mauvais sens du terme, en t'attachant à des formes, en t'attachant à des styles. Et je pense notamment qu'aujourd'hui, un des grands risques, c'est de s'attacher à une forme de société qui n'est plus et qui est la chrétienté. Des taux de pratique de 70%. Une église qui possède tout. Je parlais dernièrement avec quelqu'un qui vit au Canada, où c'était le cas. L'église qui possède les terrains de sport, les salles de cinéma, la direction des consciences, les hôpitaux. Magnifique. Mais si ce modèle vient à sombrer, est-ce que je sombre avec elle? Est-ce que habite trop souvent mon cœur la nostalgie d'un monde chrétien? Et du coup, est-ce que cela suscite en moi cette rancune, cette amertume, cette déception? Et du coup, est-ce que j'en perds ma joie? Toute notre vie est un exercice pour s'attacher à l'éternité. Je repensais au dernier moment de Maximilien Kolb. Il revient à Niepokalanów en 1941. C'est son couvent. Il a été fait prisonnier une première fois et puis libéré le 8 décembre. Il revient l'année suivante, et il va commencer à tout reconstruire pour refaire ses publications chrétiennes en pleine guerre. Et quelques mois après, arrive la Gestapo. Il a peur, il a très peur, l'attestent les témoignages. Il sait quel va être son sort et celui de ses frères, mais il a le temps de les réunir et de leur donner sa dernière consigne. Va-t-il leur dire « N'oubliez pas vos vœux, n'oubliez pas vos stalles, n'oubliez pas votre prière ?» Non, il leur dit cette seule chose « N'oubliez pas l'amour. » La seule chose qui résistera au temps. Et qu'au milieu même du camp de concentration de Auschwitz, il a pu faire perdurer, faire briller, et que cette gloire s'étende encore jusqu'aujourd'hui. Je crois, il faut nous le rappeler, à nous, chers frères et sœurs, que c'est notre rôle, à nous religieux, quand le monde sombre, quand le monde change, que nous manifestions cet attachement aux choses qui ne bougent pas, qui ne changent pas. Et du coup, d'être pour le monde source de paix. Mais c'est aussi votre rôle à vous, chers frères et sœurs. S'attacher à ce qui ne change pas. Je pense que c'est important, notamment pour les plus jeunes, de pouvoir trouver ce rocher. C'est le Seigneur. Ma vie peut connaître des échecs, peut connaître des déboires sentimentaux, des échecs d'examen ou professionnels. Si le Seigneur est là, je n'ai rien à craindre. Je suis en paix. J'aime cette phrase de François de Sales, relativement inattendue de sa bouche. Mon unique préoccupation était d'établir mon cœur dans une paix profonde. Il ne dit pas d'aller sauver les âmes, il ne dit pas de me convertir, d'établir mon cœur dans une paix profonde, dans ce qui ne bouge pas. Un dernier point, chers frères et sœurs. Est-ce que le retour du Christ, c'est une bonne nouvelle? Alors, quand on entend le Dies Irae dans les Requiem, ou quand on voit les jugements derniers, que ce soit à Amiens ou ailleurs, ça fait quand même plutôt peur, hein, ou les danses macabres, etc. Non, on se dit quand même vivement que ça passe. Et... Eh bien, l'Écriture nous dit le contraire. Je ne sais pas si vous avez fait attention, le Seigneur est présenté comme cette fournaise ardente dans le livre de Malachie, et puis comme ce soleil. Mais ce n'est pas un soleil qui va nous cramer, qui va nous consumer, c'est un soleil qui nous guérit. Vous voyez comme c'est beau. Ce rayonnement du Seigneur en gloire, c'est aussi lui qui apporte la guérison dans ses rayons. Et puis j'aime beaucoup aussi considérer ces derniers moments que sera le jugement. Ce jugement, on a tendance à le considérer peut-être comme le grand déballage. On va connaître tout ce que chacun avait dans le cœur. Et ça va être la mise à plat de toutes nos turpitudes et de toutes nos hontes. Oh là là, on va passer un mauvais quart d'heure. Eh bien, quand on écoute saint Paul, c'est pas du tout ce qu'il nous dit. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car alors il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera les intentions du cœur. Attention, chacun recevra alors quoi ? Eh bien, la louange qui lui revient. Ben, c'est plutôt sympathique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura bien des choses à redresser. Mais ne craignons pas Dieu si nous allons nous éloigner de lui. Le parfait amour bannit la crainte. Offrons-lui nos faiblesses, nos difficultés, nos mauvais mouvements. Si notre vie, comme je disais au début, ne tolère pas de brouillons, en revanche, elle est entièrement recouverte, entièrement assumée par la passion et la résurrection du Seigneur qui la sort de sa boue pour la faire briller si nous nous livrons à sa miséricorde. Eh bien, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous enseigne cette confiance.